l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
L'heure du grand journal du soir. Bonsoir Margot Ratézic.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Dans ce journal, nous retrouverons notre journaliste à Mayotte 2 semaines après le cyclone Chido. Eau, électricité, école, le Premier ministre en visite sur place a dévoilé son plan pour remettre l'archipel sur pied. La Russie annonce avoir procédé à un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Les précisions à suivre de notre correspondante à Kiev. Les États-Unis se préparent aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, décédé ce dimanche à l'âge de 100 ans. Et puis enfin, nous nous pencherons sur le coût financier des catastrophes climatiques. Plus de 200 milliards de dollars. Rien que cette année, c'est colossal.
Et puis, juste après ce grand journal du soir, Margot, nous irons à Rome, la capitale italienne, qui se prépare à accueillir dans les prochains mois pas moins de 30 millions de pèlerins issus du monde entier. C'est le jubilé 2025 souhaité par le pape François, mais vous le verrez, cela n'emballe pas tous les habitants de la ville éternelle. Et donc François Bayrou et les 4 ministres qui l'accompagnaient aujourd'hui à Mayotte sont désormais dans l'avion, direction La Réunion.
Oui, ils ont passé une journée sur l'archipel, visite consacrée à l'après-Chido, ce cyclone dévastateur passé il y a 15 jours. Bonjour Lola Fourmi. Lola, vous êtes sur place, vous avez suivi cette visite officielle, visite qui s'est donc clôturée par la présentation du plan Mayotte debout.
Un plan, oui, en 4 pages et 9 points clés sur l'électricité, l'eau, les télécoms, le logement, les écoles, la sécurité, la santé, les transports et l'économie. Un plan préparé en amont, mais aussi modifié en cette fin d'après-midi, car si les ministres ont visité ce matin une usine de dessalement d'eau, puis un collège et enfin l'hôpital de campagne, ils ont consacré leur après-midi à des réunions stratégiques avec les représentants des acteurs du territoire. Parmi les mesures que l'on peut retenir et qui auront un impact concret sur la vie des Mahorais, l'engagement de rétablir la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone et même d'augmenter la capacité d'ici le mois de juin. Il assure aussi que l'électricité sera revenue partout d'ici fin janvier, soit 1 mois et demi après le passage de Chido.
Et parmi les autres annonces, Lola, il y a aussi la présentation d'une loi d'urgence.
Oui, elle sera présentée en Conseil des ministres ce vendredi et dévoilée à l'Assemblée sous 15 jours. François Bayrou a aussi insisté sur le lancement d'un grand recensement de la population à Mayotte. Il affirme d'ailleurs que ce plan Mayotte debout est une manière précise et concrète de répondre aux préoccupations.
Et on a beaucoup parlé du sentiment d'oubli des sinistrés. Est-ce que du côté de la population, tout cela semble suffisamment concret ?
Eh bien, pas vraiment. Croisée à la sortie, la députée Estelle Youssoufa semble déçue. Elle refuse de se prononcer sur un document dont elle n'a pas encore reçu tout le détail. Mais surtout, les habitants n'ont cessé de me demander toute la journée. Mais les ministres sont-ils allés voir les sinistrés, visiter les quartiers dévastés, les toilettes sans eau ? La réponse est non, une visite finalement plutôt à distance de la population, ce qui a provoqué la colère. La colère notamment de ce collectif de citoyens de Mayotte 2018 présent devant le conseil départemental cet après-midi. Sa présidente, Safina Soula, n'a été reçue que par un conseiller, insuffisant selon elle et ses soutiens. Elles l'ont dénoncé de manière plutôt véhémente. Écoutez.
Le problème, c'est que lorsque le ministre est arrivé avec la délégation ministérielle, il les a demandés et on les a vus justement en train de lui demander de ne pas se rapprocher de la population, de ne pas les saluer. Et pour les mamans, c'est manque de respect. On ne sait même pas de quelle annonce il s'agit puisque logiquement, maintenant, les ministres sont partis. Ils auraient dû se rapprocher de la population pour leur expliquer ce qui a été discuté au moins. Et ça a mis vraiment la colère.
Qui se sent donc un peu à l'écart. Après ce bilan en demi-teinte pour la population, il reste maintenant 3 jours à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, pour tenter de changer la donne.
Merci beaucoup Lola Fourmi pour toutes ces précisions sur place à Mayotte.
Et puis les suites de la retentissante affaire des viols de Mazan.
Un second procès se tiendra fin 2025, dans un an donc. 17 accusés ont fait appel de leur condamnation, ce qui explique ce nouveau jugement. Dominique Pellicot, le principal accusé accusé n'a quant à lui pas contesté le verdict. Le mari de Gisèle Pellico avait écopé de 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme afin de la violer et la livrer à des dizaines d'inconnus.
Dans l'actualité internationale de ce lundi 30 décembre, la Russie qui annonce avoir procédé à un échange de prisonniers avec l'Ukraine.
300 soldats russes et ukrainiens ont été remis à leur pays selon Moscou. Cela fait suite à une médiation des Émirats arabes unis. À Kiev, les précisions de notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Les photos de certains des 189 prisonniers de guerre ukrainiens revenus des prisons russes lors de ce dernier échange sont éloquentes. Les anciens détenus sont pâles et amaigris, mais aussi soulagés. Ils sont à bord d'un bus qui les ramène en Ukraine. Certains étaient en captivité depuis mai 2022, après avoir défendu Azovstal à Mariupol, l'île aux serpents dans la mer Noire ou encore le site de Tchernobyl. Ils sont maintenant libres, tandis que de son côté, la Russie a récupéré 150 soldats. Ces dernières semaines, des pourparlers entre les commissaires aux droits de l'homme ukrainiens et russes ont donné lieu à des accords sur le traitement des prisonniers ukrainiens qui jusqu'à présent n'avaient pas droit à recevoir des nouvelles ou des colis de leur famille. Le comité international de la Croix-Rouge affirme ne pas avoir accès au centre pénitentiaire russe, tandis que Kiev permet cet accès à ses propres prisons et se veut exemplaire dans le traitement des prisonniers de guerre russes qui, eux, peuvent envoyer et recevoir des lettres, travailler s'ils le souhaitent et manger à leur faim, tandis que les prisonniers ukrainiens qui réchappent aux prisons russes partagent des récits de torture quotidienne, un manque de nourriture et de soins, au mépris des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, presque 4000 prisonniers de guerre ont été libérés, notamment grâce à la médiation des Émirats arabes unis. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Alors toujours sur le front ukrainien, les États-Unis ont annoncé un programme d'aide pour Kiev.
2,5 milliards de dollars pour la sécurité. Washington s'efforce de fournir une assistance à l'Ukraine avant la prise de fonction de Donald Trump. Ce sera dans un mois, le 20 janvier.
Et ce sera évidemment à suivre sur RFI. La Géorgie toujours plongée dans l'incertitude.
Le régime au pouvoir fait face à une importante contestation. Une partie de la population dénonce le virage autoritaire du gouvernement. Le nouveau président du pays, Mikhail Kavelashvili, a promulgué dimanche des lois répressives contre les manifestants, quelques heures seulement après son investiture. Des lois qui augmentent drastiquement le coût des amendes et octroient plus de pouvoir à la police. Des mesures illégitimes selon Ivatchkonia. Elle est députée d'opposition, membre de la coalition pour les changements. Je vous propose de l'écouter.
Ces lois comme ce gouvernement sont illégitimes et on les annulera quand on se débarrassera du pouvoir. Les amendes des manifestants vont payer le budget des criminels et des bandits au pouvoir. Ce n'est pas normal. Les élus d'opposition et la société civile rassemblent des informations sur les abus, sur les répressions et on les transmet à nos partenaires aux États-Unis et en Europe. Ça marche bien. Comme ça, ils prennent des sanctions rapides contre le régime. Je suis sûr et certain que ces sanctions vont se durcir encore et encore. Ça va être douloureux pour les membres du rêve géorgien, mais aussi pour ceux qui les soutiennent.
La députée d'opposition géorgienne, Ivatchkonia, au micro de notre envoyé spécial Julien Chavanne, avec Irma Inaridze.
Elon Musk provoque l'indignation en Allemagne.
Le milliardaire est accusé de vouloir influencer les élections législatives de février. Le gouvernement allemand lui reproche ses soutiens répétés au parti d'extrême droite AfD. Dans une tribune, Elon Musk a qualifié le parti de dernière lueur d'espoir pour l'Allemagne. Une déclaration qui a provoqué des critiques et la démission d'une rédactrice en chef du journal allemand.
Alors en Allemagne justement, où les autorités indiquent que l'auteur de l'attaque sur un marché de Noël à Magdebourg, cet auteur-là présentait des troubles psychiatrique.
Ce qui frappe, ce sont les milliers de déclarations faites par l'agresseur sur les réseaux sociaux, s'est inquiétée la ministre de l'Intérieur. L'enquête, elle, se poursuit. Le gouvernement et les chargés de la sécurité ont commencé à se livrer à un interrogatoire. Et ce, alors que des voix s'élèvent dans le pays autour de possibles failles des autorités. L'attaque à la voiture Bélier a causé, je le rappelle, la mort de 5 personnes. 200 autres ont été blessés. C'était il y a 10 jours.
9 en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI. Direction à présent Damas, en Syrie, Margot Ratézic, où le nouveau pouvoir en place multiplie les nominations.
Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué. Sans surprise, on y retrouve des membres des groupes armés rebelles, puisque leur dissolution a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants promus officiers compte aussi des djihadistes étrangers, Nicolas Falaise.
C'est une liste de 49 noms de rebelles promus officiers par le nouveau pouvoir syrien. Cet organigramme encore embryonnaire compte essentiellement des ressortissants syriens, mais également 6 djihadistes étrangers au moins, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a notamment identifié un Albanais, un Jordanien, un Turc ou encore un Chinois de la minorité ouïghour. Le nouveau pouvoir syrien risque donc de devoir justifier ses choix auprès des pays d'origine de ces djihadistes, comme l'explique le chercheur Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie.
Une fois que de tels personnages se voient confier des responsabilités importantes dans une armée nationale, je dirais qu'ils devront sans doute laisser de côté l'agenda politique qu'ils pouvaient avoir pour leur pays d'origine. Ils vont devoir, je pense, se plier à la raison d'État syrienne. Je pense par exemple, dans le cas de la Chine, je pense qu'il sera dans l'intérêt du nouveau pouvoir syrien d'avoir de bonnes relations avec la Chine pour des raisons diplomatiques et économiques. Il devra par conséquent exercer des pressions très fortes sur ses alliés d'origine chinoise pour abandonner toute velléité d'opérations terroristes, par exemple, contre la Chine.
Ex-combattants rebelles, syriens ou étrangers, ces premiers cadres de la future armée syrienne ont reçu des grades. La liste compte 2 généraux, 5 généraux de brigade et une quarantaine de colonels.
Nicolas Falaise du service international de RFI.
Alors on évoquait la Syrie où justement ce lundi s'est rendu le chef de la diplomatie ukrainienne.
Il a plaidé pour l'élimination de la présence russe en Syrie, demande formulée auprès du nouveau dirigeant syrien qui a évincé Bachar al-Assad. Pour rappel, le régime de l'ex-président syrien était un proche allié de Moscou.
Alors cela reste évidemment un grand titre de l'actualité internationale encore ce soir, le décès de Jimmy Carter hier dimanche, une pluie d'hommages aujourd'hui.
Oui, un espoir pour les générations à venir, dit Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Le dirigeant chinois Xi Jinping et le pape se disent quant à eux attristés. Nombreux sont les officiels à saluer ses engagements en faveur de la paix et des droits humains. L'ex-dirigeant américain s'est éteint ce dimanche à l'âge de 100 ans. Une journée de deuil national se tiendra le 9 janvier aux États-Unis et des funérailles nationales auront également lieu. Bonjour Carlotta Morteo.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service international de RFI et ces funérailles, Carlotta, dureront plusieurs jours et se termineront à Washington dans une semaine.
Oui, elles vont commencer vendredi quand la dépouille de Jimmy Carter sera présentée 2 jours à Atlanta, en Géorgie, dans les locaux de la Fondation Carter, l'ONG qu'il a fondée avec sa femme à la fin de son mandat présidentiel en 1982, organisation humanitaire dans laquelle il s'est beaucoup impliqué à la résolution des conflits, notamment lundi. Il sera ensuite transporté à Washington, installé dans la rotonde du Capitole, sous le dôme, comme l'ont été plusieurs présidents avant lui. C'est là que des milliers de personnes sont attendues pour lui rendre hommage. Le soir, une messe de funérailles aura lieu dans l'imposante cathédrale nationale de Washington. Joe Biden y prononcera l'éloge funèbre. On ne sait pas qui d'autre s'exprimera, ni si le président élu Donald Trump sera présent. Enfin, Jimmy Carter sera ramené chez lui, en Géorgie, dans son village rural de Plains, où il sera enterré sous un saule pleureur, juste à côté de sa modeste maison où il vivait depuis 1961 et qui va devenir un musée. Il rejoint son épouse, Rosaline, décédée l'an dernier et avec qui il a partagé 77 ans de sa vie.
Merci Carlotta Morteo du service international de RFI.
Et puis ce constat à présent, le changement climatique a déclenché des conditions météorologiques extrêmes et des chaleurs records en 2024.
Le bilan dressé ce lundi par l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU n'est pas des plus réjouissants. Dans son message du Nouvel An, le secrétaire général des Nations Unies exhorte le monde à abandonner le chemin vers la ruine. Le réchauffement climatique a tendance à amplifier un certain nombre de catastrophes naturelles. Et ces catastrophes, au-delà des bilans humains, ont aussi un coût financier. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Journaliste au service environnement de RFI. Pauline, ces catastrophes climatiques, selon un rapport de Christian Aid, auraient coûté plus de 200 milliards de dollars en 2024, rien que pour les 10 événements les plus chers de l'année.
Le podium des catastrophes les plus chères est entièrement nord-américain. L'ouragan Milton, qui a frappé la Floride en octobre, a provoqué pour 60 milliards de dollars de dégâts. Hélène, qui l'a précédé de quelques semaines aux États-Unis, au Mexique et à Cuba, a coûté 55 milliards de dollars. Et sur l'ensemble de l'année, il faut aussi compter 60 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pour d'autres tempêtes, inondations en Chine et au Brésil, typhon Yagi en Asie du Sud-Est ou encore inondations en Europe. Les autres catastrophes ont coûté entre 4 et 15 milliards de dollars au minimum. car ces données ne prennent en considération que les biens assurés. Cela explique en partie que les pays développés soient les plus représentés dans ce classement. Mais Christian Haid rappelle que des événements climatiques extrêmes ont aussi touché de plein fouet des pays plus pauvres. Alors cela ne veut pas dire que sans réchauffement climatique lié aux activités humaines, il n'y aurait pas eu de dégâts. Mais des études menées pour plusieurs d'entre elles montrent que ces catastrophes ont été plus probables et plus intenses à cause du réchauffement climatique.
Merci beaucoup Pauline Glaise. 5 ans après la pandémie de Covid-19, l'OMS continue d'investiguer les origines du virus. L'Organisation mondiale de la santé redemande à la Chine de partager ses données sur l'apparition du Covid. Comprendre comment la pandémie a commencé apparaît comme un impératif moral et scientifique, insiste l'OMS. Un coup de cœur musical pour terminer ce journal, c'est Uzi Freja avec Bellies Don't Cry, premier album pour le nouveau phénomène du rap camerounais. José Marinho a écouté pour nous. My enemies are getting some treasure. Actually, may say to have a bit of press. I'ma fix my actually. I'm not impressed, but I heard in the east side that thing put me less. Le flow féroce d'Uzi Freya fait des étincelles sur cet album de 12 titres dansants et percutants. En à peine 5 ans, la Camerounaise s'est imposée comme une valeur sûre du hip-hop africain que tous les grands festivals français s'arrachent. Love this type of bitch who give everything but always just. Derrière le nom de scène d'Uzi Freya se cache Kelly Rose, née au Cameroun dans une famille de musiciens. Elle a été élevée dans le gospel et découvre Eminem à l'adolescence. Arrivée en France, c'est dans les rues de Nantes que la chanteuse fait ses armes tout en développant son style ouvert autour du rap, de la techno et aussi du punk. Ce premier disque, Bellies Don't Cry, parle de l'artiste ronde, noire et féministe qu'elle est. Il évoque aussi l'amour, sa famille et surtout son histoire, celle d'une jeune femme africaine qui se dresse contre la bêtise misogyne et le racisme. Comme ici sur ce titre bien colérique à l'énergie folle. C'était Uzi Freja avec Bellies Don't Cry. Bientôt 19h17 ici à Paris. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour la suite de RFI Soir avec vous, Romain Ouzoui.
On dit que la fin d'année est calme, mais c'est assez énergique, effectivement. Merci beaucoup, c'était le grand journal du soir de Margot Ratézic sur RFI. Et dans les prochaines minutes, nous irons à Rome, la capitale italienne, qui se prépare à accueillir dans les prochains mois plus de 30 millions de pèlerins issus du monde entier. C'est le jubilé 2025, souhaité par le pape François, mais vous le verrez dans notre reportage, ça n'emballe pas tous les habitants de la ville éternelle. Et puis, entretien avec Inès Leroux, sa bande dessinée sur le scandale des algues vertes dans l'ouest de la France avait connu un franc succès, et elle revient avec un roman consacré cette fois à la modernisation agricole. Mais pour l'heure, voici les sports sur RFI. C'est avec Sofiane Amazian. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le foot, la 19e journée de Premier League en Angleterre. 3 matchs au programme ce lundi. Manchester United en panne de résultats accueille Newcastle.
Red Devils, Romain, qui végète à la 14e place du classement et qui ne semble pas encore adhérer aux nouvelles idées de leur entraîneur, le portugais Ruben Amorim. Hormis un succès contre Manchester City, les résultats sont plutôt mauvais. Amorim espère toujours inverser la tendance et appelle à la patience.
Je ne sais pas combien de temps cela prendra. On doit progresser, utiliser chaque minute d'entraînement et grappiller des points. L'équipe est en train de complètement changer sa façon de jouer. C'est difficile pour les joueurs, mais pour le staff aussi qui doit donner des informations. Et quand les résultats ne suivent pas, c'est encore plus dur de croire en ce qu'on fait. On savait que ce serait difficile. On doit juste se concentrer sur le prochain match.
Et coup d'envoi de la rencontre 20h temps universel. 2 autres matchs à suivre ce lundi, Aston Villa Brighton et Ipswich contre Chelsea. Et
voilà pour l'Angleterre. En foot toujours, la valse des entraîneurs se poursuit en Italie. Le Milan AC a déjà trouvé le successeur du portugais Paolo Fonseca.
Oui, l'AC Milan 8e seulement du championnat d'Italie a nommé au poste d'entraîneur un autre portugais, Sergio Conceição, ce lundi, peu après avoir relevé de ses fonctions son compatriote Paolo Fonseca en poste depuis juillet dernier. L'entraîneur de 50 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026, c'est ce qu'a indiqué le Milan AC dans un communiqué, l'AC Milan, qui est évidemment distancé dans la course au titre, 14 points de retard sur le leader, qui est l'Atalanta Bergame.
Petit coup d'œil dans le rétroviseur, Sofiane Amazian, c'est la fin d'année, on revient sur l'un des faits sportifs marquants de 2024, ce soir le basket olympique masculin, domination totale des États-Unis cette année.
Les États-Unis qui ont remporté à Paris leur cinquième médaille d'or consécutive, en battant la France, 98 à 87, et les Américains le doivent en grande partie à leur meneur de jeu, Stephen Curry, auteur, c'était un samedi, le 10 août, une performance entrée au panthéon de l'histoire de ces jeux, Victor Missistrano.
Lorsqu'on lui demande quel mot en français il a appris lors de son passage à Paris, Stephen Curry renvoie à sa fameuse célébration les mains jointes collées à la joue pour dire aux Français dont il brise le rêve olympique « Game over, il est l'heure de dormir ». Sur un nuage, le meneur américain vient de tuer le match à lui tout seul, un quatrième tir à trois points consécutif à 36 secondes de la fin, malgré deux Français sur le dos. Ses coéquipiers LeBron James et Kevin Durant sont tout seuls, mais Curry préfère prendre ce shoot plein de cul en déséquilibre.
Je les vois tous les deux, mais je suis déjà en rythme et tant que je lâche le ballon, je sais que je peux marquer. Au moment où j'arme, je les vois lever les mains, ils ne s'attendaient pas à ce que je tire.
Ça fait beaucoup d'années que je joue contre lui.
Habituel adversaire en NBA, le pivot Joel Embiid sait qu'il doit en grande partie cette médaille d'or au meilleur shooter à trois points de l'histoire qui avait déjà sauvé les États-Unis en demi face à la Serbie.
Ça fait plaisir d'être dans la même équipe à lui en demi-finale. Et puis en finale, ce genre de shoot qu'il a mis, c'est pour ça qu'on a gagné.
C'est une très belle façon de terminer ce tournoi, pour moi, c'est sûr. Mais on n'aurait pas réussi sans les 12 joueurs. Je m'en souviendrai pour toujours.
Stephen Curry aura attendu d'avoir 36 ans pour le disputer, mais il a écrit l'une des pages les plus mémorables du tournoi olympique de basket.
Et Victor Missistrano est l'un des hommes forts de cette sélection américaine. LeBron James, légende absolue et recordman de points en NBA, fête ce lundi. C'est 40 ans.
Ah bah on le souhaite, bon anniversaire.
Un bon anniversaire également.
Merci beaucoup, Sofiane Amazian, pour ce journal des sports. 18h21 en temps universel. À Rome, c'est parti pour le jubilé 2025. Il a débuté dès le 24 décembre dernier, comme le pape François l'avait annoncé. Alors cela signifie un grand pèlerinage international qui va s'étaler tout au long de l'année et qui devrait rassembler plus de 30 millions de fidèles du monde entier. Voilà qui présente, pour la capitale italienne, un sacré défi. Hein. Rome qui se prépare d'ailleurs depuis de nombreux mois à cet événement. Plusieurs centaines de chantiers ont été lancés dans le but de redonner son prestige à la ville éternelle. Mais des travaux qui ne sont pas du goût de tous les Romains qui observent d'un œil plutôt inquiet l'arrivée annoncée de ces hordes de pèlerins. C'est un reportage d'Anne Lenir.
La ville éternelle, aussi chaotique que la scène du grand embouteillage dans le film Rome de Federico Fellini, sorti en 1972, c'est l'impression qui se dégage des deux côtés du Tibre. La directrice de la surintendance spéciale de Rome, Daniela Porro, rappelle que qui dit jubilé, depuis le premier lancé en 1300 par le pape Boniface VIII, dit grands travaux.
La ville de Rome est aussi le reflet de toutes les opérations de rénovation et de modernisation réalisées à l'occasion des années saintes.
Mais sur les 205 chantiers prioritaires, seuls 64 sont achevés. Parmi ces derniers, la réfection de stations de métro ou encore la restauration de monuments. Antonella, avocate qui vit près du Panthéon, a un regard courroucé.
Aux difficultés de gestion des transports en commun s'ajoutent tant de travaux qui créent des désagréments. Et puis il y a les problèmes récurrents à Rome comme la saleté. Tout un tas d'activités de restauration rapide ont été ouvertes, mais il n'existe aucun espace adapté à la consommation.
Romain d'adoption, le Britannique James, songe à prendre la poudre d'escampette.
Tout est complicatissimo.
Tout devient très compliqué, même l'accès aux toilettes publiques. Vous comprenez ? Moi, je pense m'échapper à la campagne.
Pour Alessandra, vaillante octogénaire, sillonner à pied le cœur de Rome est un parcours du combattant.
J'ai accroché à ma canne une sonnette de vélo pour demander l'autorisation de passer. parce qu'il n'y a pas de place pour marcher. Il y a trop de touristes.
Quant à Attilio, enseignant rencontré sur la Piazza Navona, libéré des échafaudages, il déplore les rénovations tape à l'œil.
Tout a été concentré sur le maquillage du centre-ville. Je suis choqué par la fontaine des quatre fleuves du Bernin restauré. Elle est d'une blancheur immaculée. Mais à mes yeux, ces types de fontaines doivent avoir une patine pour préserver le sens de l'histoire.
Les Romains sont donc loin de jubiler, d'autant que dans les zones touristiques, les prix montent en flèche. Celui du traditionnel espresso au bar atteint jusqu'à 4 euros contre 1,50 euros en moyenne. Anne Lenir, Rome, RFI.
Rome, où il est 19h, bientôt 25 minutes.
RFI.
Elle est devenue une voix en faveur de l'écologie. Inès Leroux publie un nouveau roman plus de 5 ans après le succès de sa bande dessinée sur le scandale des algues vertes en Bretagne. Cette fois, la journaliste et autrice s'attaque au grand plan de modernisation agricole qui a bouleversé les paysages et les écosystèmes français. Sophie Torlotin a pu la rencontrer.
Bonjour Inès Leroux.
Bonjour.
Pourquoi vous intéressez désormais toujours en bande dessinée et de nouveau avec Pierre Van Hove au remembrement, ce grand plan de restructuration des terres agricoles qui a débuté en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale?
En fait, je m'y suis intéressée dès que j'ai mis les pieds en Centre-Bretagne, où je suis venue m'installer en 2015 pour travailler sur les algues vertes, parce que les habitants parlaient souvent en fait de ce mot, de cet épisode historique. Leurs souvenirs étaient associés à des traumatismes, des lésions paysagères et psychologiques. J'ai cherché des sources sur le sujet et en fait, il n'y en avait pas.
Alors avec le concours d'un conseiller historique, Léandre Mandard, vous montrez, entre autres, hein, parce que c'est une grande enquête, que c'est le régime de Vichy, allié aux grands intérêts économiques agricoles, qui est à l'origine de ce plan.
Oui, mais ça c'est vraiment parce que j'ai rencontré Léandre Mandard que j'ai pu mettre le doigt en fait sur de nombreuses archives et notamment, oui, comment la loi sur le remembrement de 1941 est formée donc sous le régime de Vichy.
C'est un plan qui va être repris à la libération de la France sous le modèle américain où il faut faire passer des tracteurs et donc on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de petites exploitations agricoles.
Ouais, c'est ce qu'on connaît mieux de l'histoire du remembrement. C'est en fait ses origines au moment du plan Marshall, de tous ces tracteurs et cette machinerie qu'on va importer des États-Unis. Et en fait, le remembrement tel qu'il a été pensé dans la première moitié du XXe siècle et vraiment formé sous Vichy, c'est un projet d'échange parcellaire. À l'époque, le parcellaire agricole est très très éclaté. L'idée, c'est de réunir ces parcelles et de faire des fermes bien regroupées. Et on pense faire ces échanges principalement dans les grandes zones céréalières type Beauce. On pense au début pas procéder de la sorte dans les zones bocagères où il y a beaucoup d'arbres, de haies, qui sont des zones d'élevage. Et finalement, les géomètres formés notamment dans la Beauce et dans les plaines céréalières vont commencer à penser le remembrement dans l'ouest. On va finir par adapter le paysage au tracteur. Enfin, on va dénuder complètement ces paysages pour pouvoir cultiver les champs par des machines.
Et cela ne s'est pas fait sans violence. C'est aussi toute cette histoire que vous racontez.
Oui, en fait, c'est vraiment l'angle mort. Quand on s'intéresse à ça, bah, on va découvrir que c'est toute une société qui est mise à sac, toute une paysannerie qui est liquidée. Et la paysannerie, à l'époque, c'était pas seulement une profession, un métier, c'était tout un mode de vie, des liens. C'est des millions et des millions de personnes qui vont devoir quitter la terre. Donc on va perdre plus de 90% de paysans.
Inès Leroux, plus de 70 ans après le début de ce plan, vous montrez aussi que ce qui était considéré comme une arriération, le bocage, bon, les haies, les petites parcelles, bah, maintenant on y revient.
Oui, dès 1964, il y a des alertes de chercheurs disant que en fait, ce bocage avait un rôle écologique énorme. Enfin, il protégeait du vent, de l'érosion des sols, il préservait les ressources en eau, il abritait la faune pollinisatrice. Quand il n'y a plus ces arbres et ces haies, on doit utiliser des pesticides. La biodiversité peut revenir très vite, en fait, quand on reméandrise des rivières qu'on avait rectifiées ou qu'on replante. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui vivent avec ces arbres et qui les entretiennent. C'est ça qui manque, en fait.
Merci beaucoup, Inès Leroux. Je rappelle que votre bande dessinée « Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement » vient de paraître chez la revue dessinée Delcourt.
Et c'était Inès Leroux avec Sophie Torlotin. Et il est bientôt 19h29 ici à Paris, 18h29 en temps universel. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir qui sera présentée ce soir par Pierre Boudias. Et à la une, le Tchad, au lendemain des élections législatives, municipales et locales, on s'oriente vers une participation faible. Et puis j'en profite pour vous donner un prochain rendez-vous d'infos, évidemment, sur l'antenne de RFI, juste après Afrique Soir. Ce sera le journal de 19h temps universel et puis 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe en Turquie. Et puis le grand reportage au Maldives consacré à une méthode controversée pour lutter contre la montée des mers.
Demain, sur RFI, vous m'en direz des nouvelles.
Musicien et éducateur spécialisé, Tyreek White publie Les fantômes de Brooklyn. Un portrait de ce quartier new-yorkais sur 4 décennies, à travers une histoire de filiation sur 3 générations d'une famille afro-américaine qui continue de se côtoyer par-delà la mort.
Vous m'en direz des nouvelles.
Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à partir de 15h10 TU.
RFI.